écoutez Contre toute attente et vous faites bien. Aujourd'hui, nous parlons d'une vertu qui est devenue incontournable dans les mentalités. Il s'agit de la tolérance. Vous savez, cette qualité qui consiste en l'acceptation, l'amour et le respect des autres. Mais pour cela, encore faut-il s'accepter, s'aimer et se respecter soi-même. Respect yourself, le London Community Gospel Choir.
The Bible in his hand. Yeah.
la vraie tolérance se retrouve dans des personnes qui ont de fortes convictions. C'est surprenant et pourtant c'est la réalité. La foi en Dieu est une force qui permet de manifester clairement ses convictions sans pour autant être crispé dessus. Le fait d'aimer et servir Jésus ne veut pas dire pour autant qu'il faille s'en faire le défenseur par tous les moyens. Nous retrouvons le professeur de philosophie Carlo Robin Grandpierre au micro de Philippe Malidor.
Ça me fait penser à cette situation du Christ qui, au jardin de Gethsémané, la nuit où il avait été arrêté, avait un disciple, un ami qui a tout de suite voulu mettre la main à son épée pour le défendre par la force, et à qui le Christ a dit laisse ton épée. Enfin, je n'ai pas besoin d'être défendu par ces moyens-là. Et il me semble que le chrétien qui voudrait bagarrer à tout prix et de manière peut-être intolérante ressemblerait à ce disciple-là.
Oui. Vous prêchez en faveur de la sympathie, alors là je vous cite, de la sympathie pour ce qu'il y a de vérité dans les expressions imparfaites de la vérité. En fait, vous posez là le problème du dialogue interreligieux, entre autres.
Ça ouvre en effet à cette dimension.
C'est-à-dire que vous reconnaissez dans les autres religions des quêtes de la vérité, oui. C'est-à-dire des visions relatives de l'absolu. Ce qui veut dire que nos propres visions de l'absolu sont aussi relatives, non ?
Oui, c'est tout à fait ça.
De ce qu'on vient de dire tout à l'heure.
C'est tout à fait ça. Je voudrais, c'est un terrain délicat, parce que je voudrais être en même temps fidèle à Jésus-Christ, que je crois être le chemin et la vérité et la vie, comme la parole, comme l'Évangile le dit. Et je crois aussi que c'est en Jésus-Christ que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu créateur, le Dieu Père, apparaît dans toute sa plénitude. Et en même temps, je pense que d'une certaine manière, le Christ est présent ailleurs que dans son Église et dans la culture qui se réfère à lui, explicitement.
Mais on trouve d'ailleurs des traces de ça dans l'Épître aux Romains.
Vous pensez
quand Paul dit que les hommes ont une connaissance de la vérité au moins relative, ne serait-ce qu'à travers la création, par exemple, ou qu'il parle de la conscience, du côté universel de la conscience, est-ce que c'est pas une manifestation, disons, oui. non nommée de Jésus-Christ?
On peut le voir comme ça. Il y a en tout cas, la beauté de la création qui est donnée à tout le monde. Il y a cette conscience aussi qui est le lieu en l'homme où Dieu peut se faire entendre. Beaucoup de penseurs l'ont dit et de théologiens. Oui, il y a tout ça, mais il me semble que chaque fois que des hommes d'une culture, d'une religion quelconque, ont été habités par quelque chose qui est vraiment de l'amour, c'est-à-dire une capacité de respecter autrui infiniment, de faire passer autrui avant soi-même, il y a un esprit de sacrifice de sa propre vie à l'intérêt des autres. Il me semble que d'une chose comme ça est tellement peu naturelle, elle est tellement peu animale, qu'elle est pour moi le signe de quelque chose qui va au-delà de l'humain et du construit par les religions. Elle est sûrement une trace de la grâce du Créateur dans ses créatures. Alors à celui qui vivrait cela, quelle que soit par ailleurs sa religion, sa confession, si je me trouvais là, chrétien devant lui ou missionnaire dans son pays, je ne pourrais, il me semble, que reconnaître et chanter avec lui la beauté de cette dimension, tout en lui disant, parce que nous avons à témoigner, dans n'importe quelle circonstance, mais témoigner d'une manière qui ne prétend pas apporter à autrui un message qui est la vérité contre le sien, mais qui est peut-être la révélation d'une chose qu'il vit sans en avoir l'origine, ou le comment et le pourquoi.
C'est-à-dire qu'au lieu de lui annoncer ce qui lui manque, on peut lui annoncer ce qu'il a déjà de divin en lui.
Mais je crois que tout, ouais. À la limite, toute évangélisation devrait commencer comme ouais. ça. Et c'est quand quelqu'un reconnaît en lui quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, même s'il ne l'appelle pas ainsi, mais quelqu'un reconnaît en lui qu'il y a une exigence de dignité, qu'il y a une capacité d'amour, qu'il y a un souci du bien, qu'il y a un besoin d'adorer. Et que tout cela est quand même fait de ce quelqu'un, quelle que soit sa vie, par ailleurs, qui peut être délabré, qui peut être malheureuse, qui peut être à ses yeux ratée. C'est quand on commence par reconnaître cela et qu'on l'appelle grâce de Dieu, présence du Créateur en nous, qu'on peut discerner ou reconnaître tout ce que l'Évangile nous apporte. Mmh. Il me semble que c'est ce renversement qui est important. De reconnaître d'abord que Dieu est dans l'homme et que la plus grande gloire de Dieu, c'est l'homme, comme disait un théologien, Maurice Zindel. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout.
Vous écrivez que le Christ est l'intégrateur suprême de toutes les vérités religieuses émiettées. Autrement dit, il y a des atomes du Christ dans toutes les religions, on pourrait dire, non ? Ou des intuitions du Christ dans...
Des intuitions plutôt que ouais. des atomes. Des intuitions, ouais. sans doute. Ouais. Sans doute. Dans toutes les religions, il y a, la quête de Dieu, la quête de la relation avec Dieu, de l'adoration de Dieu, d'un sacrifice de sa vie faite à Dieu. Et il me semble que Jésus donne une réponse qui contient toutes ces recherches. Elle les contient en les renversant peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a dans l'homme d'abord le désir de s'élever à Dieu, peut-être de s'approprier aussi Dieu. C'est paradoxal, s'approprier puis rendre un culte, c'est pas la même chose, mais il y a toutes sortes d'ambiguïtés dans la démarche naturelle de l'homme vers Dieu. Et puis voilà que la réponse de Christ est complète, elle va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, puisque c'est Dieu lui-même qui se donne. Hein, et que ce sacrifice auquel nous sentons que nous avons un devoir, ce sacrifice, il est fait. Et que cette relation que nous essayons de construire avec Dieu, elle devient possible parce que c'est lui qui en a pris l'initiative. Et que la relation suprême, c'est que Dieu est venu à nous, dans l'homme. Il me semble que toutes les quêtes religieuses, toutes les aspirations profondes de l'homme, elles se trouvent là, plus que satisfaites, hein, surprises dans un sens. Oui, surprises, oui. Parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que spontanément on imaginerait, mais en même temps que surprises, plus que satisfaites et honorées, quoi. De ce point de vue-là, je crois qu'un chrétien peut se balader sur la surface du monde entier en témoignant de ce qu'il croit, sans esprit de dispute ou de supériorité, mais avec un message qui le rend capable, au fond, d'accueillir et de comprendre en profondeur l'homme et toutes les manifestations religieuses qui sont vécues par les hommes sur la terre.
Le dialogue entre les religions peut dégénérer à la bataille d'écriture sainte, puisque ce sont des révélations toutes infaillibles. Donc il y en a forcément une de vraie, puis les autres un peu moins vraies ou carrément fausses. Comment on arrive à se sortir de là ?
Mais ça, c'est un sujet délicat sur le statut qu'on attribue à la parole, ouais. À la parole infaillible. Moi, je crois que la Bible est infaillible, je crois que la parole est infaillible, mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de prendre un texte ici ou là, et je ne parle même pas de l'erreur grossière qui consiste à tirer un verset de son contexte, hein. On est au-delà de cette maladresse, mais même en prenant plus globalement des textes et en faisant une vérité, il y a toujours le risque quand même de vouloir s'approprier Dieu et sa pensée. Pour moi, les textes bibliques sont des attestations de l'histoire de Dieu dans son peuple d'Israël et dans l'Église et parmi les hommes. Et il me renvoie toujours à cette figure de Christ que j'ai à recevoir, que j'ai à accueillir et devant laquelle je suis pauvre. Encore une fois, le texte, quel qu'il soit, même si je prends un chapitre entier ou une théologie, c'est quand même un effort de construction humaine. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas un danger d'appropriation et d'utilisation à mes fins, qui serait au fond très humaine, et pas forcément à la gloire de Dieu. Donc j'essaye de concilier le respect absolu de la parole de Dieu, que je crois être la vérité, mais la parole de Dieu, je ne peux jamais la réduire à des phrases, à des textes, que j'introduis dans une construction qui est la mienne, et que j'érige en vérité. Ce sont des textes qui m'interpellent avant tout.
D'ailleurs, la Bible elle-même nous dit à plusieurs reprises qu'elle-même ne peut pas rendre compte de la totalité de Dieu, de tout ce qu'il est, parce que c'est au-delà du langage humain par lequel passe la Bible.
Voilà. De même que Dieu n'est pas visible à l'œil, il est aussi au-delà de la pensée et du langage humain. D'ailleurs, quand on dit parole de Dieu, il faudrait se rappeler que parole, c'est pas discours, mais que la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Oui. Et que le langage de Dieu, c'est pas un langage de mots et de concepts et de phrases, ça l'est aussi, mais à travers une personne qui est le Verbe de Dieu.
Vous dites que les religions de la Bible sont des religions du verbe plutôt que des religions du livre.
Ben c'est cette idée assez mystérieuse que le langage de Dieu, c'est son incarnation, que son verbe, c'est le Christ, et que par conséquent, l'attitude du Christ, la vie du Christ, et pas seulement ses paroles, mais ce qu'il a fait, parle. Qu'il y a un langage là qui est au-delà des concepts, au-delà des phrases. Et quand on dit religion du livre, on a l'impression que la vérité est tombée toute faite dans un livre sacralisé. Ça, je trouve cette idée dangereuse. En tout cas, elle n'est pas applicable, il me semble, à l'Évangile. Ce qui est venu à nous, ce n'est pas un discours tout fait et des vérités dites en manière de discours humain. Ce qui est venu à nous, c'est un homme, un vécu, une attitude, des paroles, bien sûr, mais des paroles souvent mystérieuses, et combien soutenues et rendues significatives par les actes. Enfin, Jésus, la parole de Dieu, c'est avant tout cet homme qui se donne jusqu'à la mort par amour pour sa créature, c'est ça cette parole. C'est quand même tout autre chose qu'un discours quel qu'il soit.
C'était une chanson du groupe EXO et plus particulièrement la voix de Chris Christensen. C'est notre invité Carlo Robin Grandpierre que nous rejoignons maintenant en compagnie de Philippe Malidor.
Dans son livre « Le petit traité des grandes vertus », André Comte-Sponville dit que la tolérance a des limites parce que tolérer absolument tout reviendrait à s'aborder la tolérance elle-même. Si on tolère l'intolérance par exemple. Enfin bref, on arrive à des paradoxes vertigineux. Est-ce qu'on peut tout tolérer ?
Non, c'est ça qui fait la difficulté de cette vertu de la tolérance, c'est que elle est animée principalement, je crois, par l'amour, la reconnaissance d'autrui, mais elle ne peut pas être totale ou sans limite. J'avais entendu un conférencier avoir une formule très juste, je crois. Il disait que la tolérance n'est pas une vertu ultime, contrairement à l'amour. Alors ça, je crois que c'est très vrai. Que l'amour, bien compris, hein, l'amour inspiré, c'est une vertu ultime. Au nom de l'amour, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire, si ce que je fais est dicté par l'amour.
Et pas une caricature de l'amour, faudrait préciser.
Et bien sûr, pas un amour dévié ou caricaturé comme souvent ce que nous vivons. Mais un vrai amour inspiré de Dieu peut déboucher sur toute attitude. C'est ce que disait Augustin, quoi, quand il disait « aime et fais ce que tu veux ». Hein. Si ce que tu fais est vraiment inspiré par l'amour, alors il est bon. Mais la tolérance, non. La tolérance, non, c'est évident. Il est évident qu'au nom de la tolérance, je ne peux pas laisser faire tout ce dont je suis témoin. Que donc, j'ai à me montrer intolérant, par moment.
Le devoir d'ingérence.
Il y a un devoir d'ingérence. Je ne peux pas être témoin d'une violence commise contre un faible sans lever le petit doigt. Je me fais complice de cette violence. Donc, effectivement, la difficulté de cette notion, c'est que elle a un vecteur d'amour, mais qui doit en même temps rester vigilant, prudent et conscient d'une pesée d'intérêts entre l'exigence d'amour et puis l'exigence de justice.
Puis la tolérance en soi, ça n'existe pas, non. C'est son contenu qui
absolument.
Importe.
C'est absolument, ça n'existe pas la tolérance en soi.
Ouais.
Puisque justement la tolérance en soi, ce serait une tolérance qui devient inconsistante, enfin qui est ouverte à tout, y compris au pire. Sur un plan pratique, je crois que les situations sont nombreuses où on ne peut pas tolérer tout. Il faut lutter pour la justice, s'engager dans une cause qu'on croit juste. Ça nous rend forcément, disons, intolérants. On ne devrait peut-être pas dire intolérants. C'est là qu'on est piégé par les mots, parce que intolérant, c'est vraiment quelqu'un qui se refuse à la belle idée de tolérance. Or, ce n'est pas exactement la situation de quelqu'un qui marque une limite au pouvoir du méchant. Ce n'est pas de l'intolérance. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est de l'intransigeance, ou c'est un souci de justice, ou de devoir d'assistance, de rectitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, la tolérance a des limites, c'est sûr. Sous le plan des églises, moi je voudrais tellement que toutes les églises puissent féconder mutuellement leur rapport, hein, plutôt que de vivre dans une sorte de concurrence et peut-être là d'intolérance.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une église qui détient tous les dons de Dieu, puis l'autre qu'en aurait pas, quoi.
Mais
c'est-à-dire chacune reçoit de Dieu un don particulier, comme le dit l'Écriture à propos d'autres choses.
C'est tout à fait évident, tout à fait évident, et ça ne l'a pas toujours été pour moi.
Ouais.
Je reconnais que c'est très humain, et pour un enfant peut-être plus que pour un adulte, de s'accrocher absolument à quelque chose qu'on lui a dit et de le défendre bec et ongles, parce que c'est son identité, c'est sa raison d'être qui est en jeu, mais que plus on mûrit dans la vie et plus on expérimente, entre guillemets, la présence de Dieu et la grâce, et plus il devient absolument évident qu'il y a tout à gagner à échanger ses dons réciproquement. Là.
Alors justement, j'allais vous demander, en tant que protestant convaincu, comment exercez-vous la tolérance et comment l'assumez-vous devant Dieu ? Vous avez partiellement répondu, parce que vous êtes un homme de conviction, pour autant que je vous connaisse.
Mmh.
Et donc, on a dit tout à l'heure que plus on avait de conviction, plus on était porté à être tolérant. Peut-être parce qu'on n'a pas ce réflexe d'autodéfense de la personne qui se sent faible à l'intérieur, quoi.
C'est ça.
C'est ça qu'on pourrait dire.
Moi, je crois qu'on pourrait dire ça, parce que vivre dans la foi, c'est vraiment vivre dans une sorte de sécurité grandissante, mais c'est pas une sécurité au sens des assurances et des garanties humaines. C'est une sorte de liberté intérieure. La fréquentation du Christ m'ouvre à l'humain de manière que je sens de plus en plus grande. Et il y a un tas de comportements humains sur un plan politique que je trouve détestables, dans notre société néolibérale en particulier, sur un plan moral aussi, et sur un plan professionnel, sur un plan sexuel, il y a toujours des comportements qui sont détestables autour de nous et qu'on ne peut pas approuver. Mais plutôt que de bagarrer la contre, plutôt que de faire voter des lois à la contre, plutôt que de mettre des obstacles administratifs ou légaux à toutes ces choses, sans du tout me montrer laxiste ou tolérant, je voudrais avoir sur ces choses le regard du Christ, hein, sans devenir un mystique ou sans quitter le sol. Quand le Christ a rencontré des hommes et des femmes et des pécheurs, et des prostituées, il avait un regard d'amour sur eux, et c'est ce regard qui est seul capable de les aider et de transformer quoi que ce soit. Alors, on est tous invités, nous, à nous laisser pénétrer de ce regard d'amour qui, avant de juger, de condamner, de dire « vous ne devez pas, vous n'avez pas honte de ceci » ou « ceci est scandaleux », d'essayer d'approcher les situations avec un regard, non pas d'acceptation, mais d'accueil de ce qu'est l'autre et de reconnaissance de ce que signifie sa quête, ou son désespoir, hein, ou ce qui exprime des comportements quelquefois aberrants. Et là, on entre en communication avec les gens. Et c'est seulement en entrant en communication qu'on peut témoigner de ce à quoi ils aspirent, sans doute profondément.
Hein. L'exemple le plus typique, c'est Jésus avec la Samaritaine, qui a eu 5 maris. Au lieu de lui dire « t'es une femme de mauvaise vie », il lui annonce quelque chose de positif et il lui ouvre une porte. Il l'amène à changer.
Et c'est ça, et c'est dans cette porte qu'elle s'engouffre, et c'est ça qui est garantie de changement pour elle. Autrement, elle se serait cabrée, elle se serait justifiée, comme on fait tous, et ça aurait été stérile.
Thank you.
sur un plan politique, moi je conçois tout à fait, c'est pas mon cas, mais je conçois et j'approuve et j'admire tous ceux qui s'engagent plutôt du côté des miséreux, des pauvres et des victimes d'une société cruelle. Alors je crois que la tolérance n'implique pas forcément qu'on reste béat et qu'on bénisse tout le monde de loin par son regard et sa prière. Il y a des lieux d'action, il y a des lieux d'engagement qui ne sont pas contraires à la tolérance, mais qui sont plutôt faits alors au nom d'une exigence de justice, mais qui sont tout autant habités du témoignage de Jésus-Christ et de la volonté de respecter son regard sur les hommes.
S'investir dans de telles actions sociales par souci de justice et d'équité, c'est ce qu'a fait Amy Grant en créant l'association Helping Hand, qui vient en aide à différentes personnes en difficulté. Et puis Helping Hand, c'est aussi l'une de ses chansons. Everybody needs a helping hand. Take a look at your fellow man and tell me what can I do today. Cause everybody needs a helping out. If that ain't what it's all. Tell me what can I do, what can I do today? We've all seen through from time to time. There is a mountain ahead, I've got no strength to climb. Hey. If you're feeling that you're strong, reach out to me. Les bonnes choses ont une fin, c'est normal, c'est donc le moment de se quitter. Rendez-vous pour le prochain Contre toute attente. Au revoir et à très bientôt.